Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Merci pour ces jolies informations.
Je vous en prie. Belle,
allez, à demain. On a réécouté l'émission de vendredi. Salut les amis.
Salut Charline.
Alors dans l'émission de vendredi.
Ah, super intéressant.
C'est vrai, génial. Qu'avoir un philosophe dans l'émission, ça remonte le niveau.
Ah ouais, ouais. Moi j'ai mis le week-end à m'en remettre.
Je crois qu'on a plus appris en 30 minutes d'interview qu'en un an du journal de presse du 17h17.
Oui, c'est déjà Hannah Arendt. Attention, citation philosophique.
Heureusement, bon, il vous a prévenu, puis après.
Le premier qui a réfléchi là-dessus, c'est un peu inattendu comme référence, c'est John Maynard Keynes, le grand économiste dans les années 30.
C'est vrai que c'était inattendu comme référence.
Il est inattaquable, le bonhomme, de toute façon.
Et Alex a essayé, mais enfin c'était pas bien brillant.
Non, j'ai failli le coincer plusieurs fois, non ?
Non.
J'essaye de vous contredire, c'est pour contre vous, hein, ne me regardez pas méchamment.
Brillant. Oui, enfin, ça, c'est brillant.
Alors, laisse-moi te dire qu'il n'était pas à l'aise, hein, Pépère.
Ah, bah, c'est sûr, Léa Salamé, elle a téléphoné pour que tu lui donnes 2-3 techniques d'interview.
Oh, c'est malin, c'est
bon. Sinon, quelqu'un a des nouvelles de Juliette ?
Bah, non, pourquoi ?
Ah, bah, elle va pas bien du tout. Hein.
La lumière, donc, on y est, hein. Baignoire de sangria, fontaine de licorne, mais. C'est pas pour autant qu'on s'est sorti le cul des ronces.
Ah bah voilà, le combo alcool, drogue, vulgarité, bravo.
Faut pas qu'on perde Juliette, les amis.
Bah non, en tout cas, la buvette de la maison de la radio, là, ça va leur faire un manque à gagner.
Faut qu'on réfléchisse.
Alors, je vais vous dire, le premier qui a réfléchi à ça, et c'est un peu inattendu comme référence, c'est Pline l'Ancien,
disait... Oh, Guillaume,
mais quoi ? Ça va, j'essaie de me mettre au niveau de l'émission.
Bonjour la France Inter, nous sommes le lundi 11 juin. Nicolas Hulot en est déjà à son 353e jour de détention au sein du gouvernement. Nous craignons qu'il ne commette l'irréparable en avalant un flacon de gel douche. Nous n'oublions pas, hashtag Free Nicolas. Et voici le menu de cette émission qui lui est bien sûr dédié. Quid de la passion en politique ? La démocratie se méfie de l'émotion, mais sans passion, personne ne s'intéresserait à la vie politique alors.
Il ne veut pas de discours au sens traditionnel. Il veut à chaque fois ce qu'il appelle un souffle fondateur.
Fondateur.
Oui.
Les anciennes salariées de l'usine Samsonite à Hénin-Beaumont ont pris leur destin en main et elles montent sur scène à Avignon dans une pièce intitulée « On n'est pas que des valises, les ouvrières deviennent donc comédiennes ».
Simple personnage, en dame moelle. Je suis pas juste la femme. Je suis l'actrice.
Le bistrot est candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que ça signifie que pour le 5, ça sent le sapin et que le bistrot a besoin d'être protégé ?
Vous voulez boire quelque chose ?
Tu as une toute petite mine, toi, dis-moi.
Hein, vous buvez quelque chose ?
Qu'est-ce que t'as ? Tu es fatigué ?
Est-ce que vous buvez quelque chose ?
Lui, c'est un pilier de Café Théâtre. Alex Misorek.
Oh, j'ai bien dit ça, Charline Vanhoenacker. Bonjour. Et en cette semaine d'ouverture de la Coupe du Monde, eh bien, je vous propose, figurez-vous, une belle équipe aujourd'hui à 17h20. Celui qui s'en fiche du football. Et pourtant, il aimerait beaucoup parler coiffure avec Paul Pogba. C'est vous, Thomas VDB.
C'est moi, Thomas VDB. Bonjour Alex, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous donner, moi, toutes mes astuces pour payer moins d'impôts sur votre déclaration de revenus 2017. Mais j'ai dépassé la date de déclaration. Donc, je vais vous donner toutes mes astuces pour payer moins d'impôts en 2018.
Service public avec Thomas VDB. 17h30, celui qui est le champion de la feinte de corps avec micro. Il fait croire à son interlocuteur qu'il part à droite. Et bim, il part à gauche. Bim. C'est Guillaume Meurice.
Bonjour à tous. Moi, je me suis rendu au Salon de l'Armement pour un tribute to Serge Dassault, petit producteur d'Ange parti trop tôt.
Il faudrait plus de Serge Dassault.
Ouais, il faudrait plus de Serge Dassault, c'est notamment pour faire des blagues dessus.
Pas souvent.
Et à 17h40, celle qui est capable de convoquer Blaise Pascal pour comprendre Blaise Matuidi, c'est Isabelle Sorande. Bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux séries passionnantes qui ont toutes deux pour héros des psychopathes.
Très bien, vous n'allez pas mieux.
Allez, réagissez sur Twitter, hashtag par Jupiter, hashtag Free Nicolas Hulot. Je me tourne vers celui qu'on a invité dans l'Open Space. Vous débutez au théâtre avant d'être happé par le cinéma où Claude Lelouch fait décoller votre carrière dans Tout ça pour ça. Vous tournez ensuite sous sa direction dans Les Misérables avec Jean-Paul Belmondo et dans Homme-Femme Mode d'emploi. Puis c'est Camping de Fabien Antoniente et à la télévision le rôle de l'inspecteur Larosière dans Les Petits Meurtre d'Agatha Christie, aux côtés notamment de Marius Colucci, qu'on embrasse fort, qui était chroniqueur dans cette émission. Vous jouez dans un registre plus grave pour Jalil Lespère, dans Des vents contraires. Et puis vous faites votre cinéma, mais au théâtre, dans un seul en scène. Vous êtes donc, je crois qu'on l'a reconnu.
Ouais,
mais
moi, j'ai reconnu.
Vous
ah,
êtes,
je crois, j'espère.
Ouais, ouais. Vous êtes qui ? C'est qui vous êtes ?
Je suis Antoine Duléré.
Il a la même tête.
Charline Vanhoenacker.
Je fais l'invité mystère.
Alex Visorek.
Alex Fizeret. Très bon Alex Fizeret.
Merci.
Bonjour Antoine Duléry.
Bonsoir, bonjour, je suis ravi d'être là, parce qu'il y a beaucoup de gens très sympathiques que j'aime beaucoup autour de cette table, c'est vrai ? Des gens qui me font rire.
Nous aussi on vous aime beaucoup, et vous avez une nouvelle corde à votre arc, car vous présentez de l'opéra pour un festival qui s'appelle Opéra en plein air. Là il s'agit de Carmen de Bizet, qui est l'opéra le plus joué au monde, et le principe d'opéra au plein air, c'est que l'opéra se joue dans des domaines, des sites patrimoniaux, hashtag Stéphane Bern. Par exemple, le 15 et 16 juin, au domaine de Sceaux, fin juin, château du champ de bataille dans l'Eure. Vous passez aussi le 3 juillet par Carcassonne.
Il y a Vincennes aussi au milieu de tout ça, château de Vincennes.
Tout à fait, on donnera plusieurs dates. Il y aura aussi les Invalides début septembre. Qu'est-ce qui amène un acteur comme vous, qui est très très sollicité, à participer, à mettre l'opéra en valeur et à venir présenter, et à la fois le site dans lequel se déroule l'opéra.
Le site, oui, vous avez raison. Parce que effectivement, Tristan Duval et Benjamin Patou m'ont parlé de ça. Ce qui est intéressant, c'est que d'amener des gens à voir l'opéra. L'opéra, souvent, c'est un lieu un peu fermé. Moi, j'y suis allé assez jeune avec ma copine Agnès Jaoui, qui m'a donné le goût de ça il y a longtemps. Mais c'est vrai que sinon, c'est un monde un peu fermé. C'est un monde où un peu, il y a une espèce de franc-maçonnerie. Vous appartenez au monde ou pas. Ouais. Les gens parlent d'eux. T'as été là, la Scala de Milan. Moi, je suis allé dans ça. Il y a un côté un peu comme ça, un peu snob. On peut imaginer que ça l'est. Et dont on est un petit peu extrait. Et bizarrement, les passerelles entre les acteurs de cinéma ou de théâtre et de l'opéra ne se font pas. Alors que moi, j'ai eu la chance de rencontrer Roberto Alognac, un mec super, et quand je le vois, il dit « Ah putain, comment tu vas ?» Mais bizarrement, c'est deux mondes un peu séparés. Et on a peur, quand on est jeune acteur, parce qu'il faut dire que, ou jeune tout court, que c'est vrai que c'est cher les places d'opéra. Hein, faut dire la vérité. Moi, mes parents, ils n'avaient pas les moyens de m'emmener à l'opéra de Paris, où c'est quand même très très cher. Donc ce qui est formidable, c'est que c'est pour démocratiser l'opéra en plein air, c'est pour dire à tous les gens, finalement, vous aussi, vous avez droit à l'opéra. Vous aussi, vous allez revenir aux sources de l'opéra, qui parfois se faisait dans la rue parce qu'on distribuait les manuscrits, etc. Et alors là, non seulement, en plus, on fait ça à travers Carmen, ils ont demandé à un metteur en scène de grand talent, Radu Mélanou, de faire la mise en scène, qui est un copain en plus. Et puis, moi, je fais le monsieur loyal, donc je vais parler à la fois des lieux et puis de l'opéra. Donc ça m'amuse parce que si je peux apporter côté populaire, en disant le mec qu'on a vu dans plein de choses populaires.
Le mec de camping, il va à l'opéra.
Le mec de camping va à l'opéra.
Mais c'est un rôle un peu pédagogue.
Mais c'est ça qui est intéressant. Populaire, c'est formidable au sens, tu vois, peut-être.
Et vous allez chanter alors ?
Je chante pas.
C'est ça qu'on veut savoir.
Thomas, non, je chante pas. Je chante dans mon spectacle. Non, parce que là, j'aime bien chanter, comme toi, sous la douche, probablement. Mais là, non, parce que là, c'est quand même de l'opéra. C'est quand même une texture, une technique. Mais voilà, je suis très heureux simplement de donner mon petit coup de pouce à cette opération.
Vous avez donc une mission un peu pédagogique, parce que si vous amenez un nouveau public.
Un peu le Stéphane Bern de l'opéra. Bonsoir, les amis, c'est formidable. Alors, je vais faire un peu ça. Je vais parler un peu de lieux. Puis je vais parler aussi de Carmen. Je vais un peu ouvrir le théâtre. Je vais ouvrir un peu. Voilà, c'est comme si je passais devant le rideau et que je faisais une annonce. Ça m'amuse beaucoup.
Est-ce que Carmen, c'est une des meilleures portes d'entrée pour l'opéra ?
Oui, Alex. Parce que je vais vous répondre
merci,
en
Antoine.
Deux mots. Je vais vous dire la vérité. Parce que j'aime bien ce que vous faites. Vous êtes jeune. J'aime bien Thomas VTB. J'aime bien tous ceux. Je vais vous répondre. Laissez-moi parler.
Allez-y, Laurent Gérard. Moi, j'ai connu Sarkozy. Vous le faites bien.
Je veux dire, monsieur Boulot, soyons justes. Comment voulez-vous que Carmen... Non, mais Carmen, effectivement... Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Carmen, d'abord, Carmen, c'est... T'as vu ça ? Carmen, c'est l'opéra le plus joué dans le monde. Ça, je ne le savais pas. Moi, je l'ai vu récemment, d'ailleurs, à l'opéra de la Bastille. Et c'est vrai que c'est super. C'est super parce que c'est un opéra relativement facile d'accès.
Et en français.
Et en français, voilà. En plus, Radu va faire une mise en scène que je ne peux pas dévoiler, mais qui a vraiment rapport avec l'actualité, avec ce qu'on voit avec les migrants, etc. Les migrants contre les civillons.
Engagés,
sans que ce soit chiant, mais engagés. Donc c'est un truc qui peut vraiment parler de l'actualité et qui, évidemment...
Rappelons que Don José est joué par Gérard Collomb. C'est quand même actualisé.
Exactement, Gérard Collomb.
Ça va ramener les jeunes aussi.
Ça va ramener les jeunes. Et c'est Jack Lang qui fait Carmel.
Oh, c'est chier, super chouette,
c'est Carmel, la fête de la musique, les migrants, Thomas VDB. Non mais ça va être beau. C'est vrai que Carmel, c'est tellement chouette. La fête de la musique, le rap.
Bon, si vous n'y allez pas pour l'opéra, allez-y pour la présentation d'Antoine Duléry.
Ouais, non mais c'est vrai. Sans déconner, Carmen est un opéra extraordinaire qui est, on connaît toutes les chansons évidemment les plus populaires, qui sont des tubes. Tu connais Thomas, évidemment.
Bien sûr.
Donc je trouve que c'est bien, c'est une porte ouverte. Et si tous les gens peuvent venir voir cet opéra, on aura réussi notre coup.
Voilà. Eh bien, par exemple, je suis très fier de faire ça. Autre date, 29 et 30 juin, au château de Vincennes. On vous rappelle tout ça pendant l'émission, puisqu'Antoine Duléry est avec nous jusqu'à 18h.
Yes.
traveling around town. There's a rumor, baby, you're planning to bring me down, down, diggy, down, 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 diggy, diggy, down, down, diggy, down. Set me up until we had to be. Oh yeah, you're talking behind me, you're talking behind me, you're talking behind my back. You wanna watch me fall, but I won't break. I know you like to hit me, kick me to the ground. You're trying to be me, you're trying to bring me down, 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 down.
Down sur France Inter dans Par Jupiter avec
Antoine Duléry, l'invité mystère.
Antoine Duléry, hein. Autour de lui, moi j'ai vu Guillaume Meurice, j'ai vu Thomas VDB et Isabelle Sorrente surtout.
Isabelle Sorrente qui a écrit des livres formidables qu'on trouve partout en ce moment dans les gares. Non, c'est Ferrante, je crois. Oui, Ferrante et
Ferrante. C'était bien parti. C'est parce qu'elle a aussi écrit des livres formidables.
Je sais, je les ai lus.
Malheureusement, on ne les trouve peut-être pas partout dans les gares.
C'est pas bien. C'était quoi les titres des derniers livres?
Le dernier s'appelait La Faille. Voilà. Mais je l'ai lu à la FNAC.
Je l'ai lu, c'est un roman remarquable.
Qu'est-ce qui ment bien, je
vais adapter au cinéma.
Voilà, on a des scoops. C'est l'une des informations à 17h21 sur France Inter.
Je salue Alex Vizorek et Charline Van Anecker. Ils sont le pouls de la liberté de la presse dans notre pays.
Le journal de presque 17h17.
Bah, c'est quand même exagéré, non?
Mais oui, Antoine Duléry, il parle sur les jingles, il n'en a rien fiche.
Et moi, je trouve que tu vois, la radio, c'est la vie. Et la vie, c'est la radio. On parle hors radio, on parle la radio. Moi, je crois que c'est ça la vie. Moi, je vais te dire, il faut casser l'école.
On fera un petit journal quand même, ça vous dérange pas?
Il n'y a aucun problème.
Alors, on y va.
On commence par les titres. Oui, Emmanuel Macron s'apprête à présenter son plan anti-pauvreté début juillet lors d'un congrès à Versailles.
Oui, présenter le plan anti-pauvreté à Versailles, c'est extrêmement bien joué. C'est comme présenter le plan contre l'échec scolaire sur Énergie 12.
Le président toujours qui trouve que Benzema rayonne, mais comprend la décision de Didier Deschamps de ne pas l'avoir sélectionné.
Tu m'étonnes qu'il comprend, il trouvait aussi que François Bayrou rayonnait. Il a quand même écarté.
Des brèves?
Évidemment, même des brèves italiennes qui sont sélectionnées.
Oh,
celle-là. Commençons par cette terrible info qui, je pense, a échappé à pas mal de monde du JDD.
Oui, Emmanuel Macron a passé commande d'un nouveau service de vaisselle, on peut même dire, pour l'Elysée. Montant de la facture, 50 000 euros aux frais du contribuable.
Rien compris. Il chope des ristournes quand il n'est pas là, et puis quand il est là, il n'a plus de ristournes, il paye plein pot. Qui nous emmerde.
Voilà, ce week-end, c'était aussi l'occasion d'un grand retour.
à Sablé-sur-Sarthe pour le Ramadan. On a vu François Fillon au repas de rupture du jeûne.
Rends les boulettes, François.
Rends les boulettes, François. International.
Lors de leur rencontre, lors du G7, Emmanuel Macron a serré si fort la main de Donald Trump qu'il a imprimé la marque de son pouce pendant un instant.
Oui, c'est sans doute avec cette même main qu'il avait broyé le code du travail à l'époque.
Et à la fin du G7, Donald Trump a tourné le dos à ses alliés historiques alors qu'il s'apprête à rencontrer cette nuit le dirigeant nord-coréen.
Eh oui, Trump, on dirait un homme en pleine crise de la quarantaine qui plaque la femme avec qui il est marié depuis de longues années pour aller coucher avec une autre complètement tarée.
Justement, la nuit dernière avait lieu à New York en léger différé la cérémonie des Tony Awards.
Robert De Niro est venu remettre un prix et il a fait un discours très court et les Américains ont entendu ça.
I'm gonna say one thing. Trump.
Ouais, alors c'est le léger différé, évidemment, parce que les Américains, ils ont le droit de biper les mots un petit peu vulgaires. Mais dans les autres pays, on a tous entendu ça.
I'm gonna say one thing, fuck Trump.
Voilà, c'est beaucoup plus clair.
International, là encore.
Il est bien sur Robert De Niro.
Ah oui, là c'est visuel, pour la radio ça passe pas.
Nous sommes sur franceinter.fr en streaming.
En streaming,
si vous voulez avoir.
En streaming, moi je le fais dans mon spectacle, Robert De Niro. Je le fais muet comme ça. Il va venir me voir.
C'est vrai?
Non, par contre, je vais le jouer à New York, mon spectacle. J'ai un copain qui est très ami avec Robert De Niro, il va peut-être me le faire venir.
Oh là là,
je vais avoir peur.
Dis donc.
Ouais, première invitation, fuck Trump, donc. International.
Ah, s'il vient, je dirais fuck Trump. Le problème, c'est que Trump vient le lendemain, donc ça va être compliqué.
International encore, l'Italie et Malte refusent de recevoir l'Aquarius, le navire humanitaire de SOS Méditerranée avec plus de 600 réfugiés à bord.
Il faudra pas se plaindre quand un gosse sera pendu au balcon et qu'il tombera, hein, si on laisse pas rentrer les bateaux avec les migrants.
Sport. Ouais. Avant de s'envoler pour la Russie, les Bleus ont tous posé pour un selfie.
Et ils étaient très souriants, j'ai vu le selfie. Et apparemment, bon, une chose est sûre, c'est pas Olivier Giroud qui a pris la photo.
Ah, comment vous savez?
Elle était bien cadrée, cette
photo. Ah d'accord, football encore.
Oui, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui est allé faire un discours sur la solidarité d'une équipe pour motiver les joueurs. En Belgique, le roi Philippe est allé faire des blagues à nos joueurs, à commencer par Marwan Fellaini.
Si vous gagnez, est-ce que vous allez... couper les cheveux.
Et Macron n'avait pas pensé à la faire à Pogba, celle-là. Et après, il est allé voir Eden Hazard, qui s'était attiré les foudres de la presse belge il y a quelques années, car il était allé manger un hamburger à la mi-temps d'un match.
Pas manger trop d'hamburger.
Non, mais l'hamburger en soi, c'est important après le match.
Ouais, faut qu'on sait tout. Hein.
Il faut juste pas en manger trop, mais hein, ça fait pas de mal. En Belgique, on est obligé.
J'aime bien ça. Sans les frites, alors.
Non, avec les frites.
Ah,
avec
les frites. Bien sûr, on reste belge avec les frites, là.
C'est là qu'on a très envie de crier « Vive la République » quand on est belge. Allez, des brèves.
Je vous ai entendu, hein, vous l'aviez pas entendu ce son. Mieux qu'une brève, on reste dans le foot. Et je pense que voilà, c'est l'idole de tout le monde. Il a ressorti un hymne.
Oh, ne me dites pas que non.
Francis Lalanne, oui, est prêt pour la Coupe du Monde.
Oui.
Et en version chorale.
Allez.
Ça, c'est...
Il a réussi à trouver autant de gens pour chanter en même temps que lui.
Ouais, ça, je pense qu'il y a une boucle. C'est avec ça la France n'est pas championne du monde. Ouais. Voilà, vous êtes informé, Antoine Duléry.
Oui, 17h26.
J'ai adoré. Francis Lalanne qui chante. Oui.
En notre compagnie, il présente l'opéra Carmen de Bizet dans le cadre de Opéra en plein air. Et par exemple, les 22 et 23 juin, vous serez au château du champ de bataille dans l'Eure. On va aborder ce premier sujet avec vous, Antoine Duléry. La passion, le cœur et l'émotion ont-elles leur place en politique? La démocratie se méfie des passions, mais la passion, elle est indispensable pour faire passer les idées. Parce que sans passion, personne ne s'intéresserait à la politique.
C'est vrai.
Bah oui, qui s'intéresserait à Jean-Marc Ayrault, par exemple.
Chose, vous n'avez pas le monopole du cœur.
Alors, on tient un nouveau concept pour Léa Salamé sur France 2, ça s'appellerait l'émotion politique, bien sûr.
Je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas.
Pour être président de la République, il faut être calme.
Non, pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines, parce qu'elles correspondent
Madame
à la souffrance
Royale,
des gens.
Est-ce que vous me permettez
il y a des
de
colères que j'aurai, même quand je serai présidente de la République.
Je ne sais pas pourquoi, Madame Royale, d'habitude calme, a perdu ses nerfs.
Elle a perdu ses nerfs, elle a perdu ses os.
Ça n'est pas pareil. Pas de mépris, M. Sarkozy.
Pas de mépris.
Je n'ai pas perdu mes nerfs. Je suis en colère. Vous permettez? Vous permettez? Il y a des colères très saines et très utiles.
Je vais répondre, si vous me permettez.
Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy,
mais laissez-moi répondre,
Antoine Duléry, débat d'entre deux tours.
Moi, je crois que c'est très important, la passion.
Vous n'avez pas pris la question.
Attendez, sur l'air d'Aïda de...
Verdi.
Merci.
Ah, Verdi, magnifique. À la Scala de Milan, il y a très peu de temps.
C'est un article paru dans Télérama, un entretien avec Christophe Traini de Sciences Po Aix-en-Provence, qui a réalisé un livre sur le sujet, autour de la minute sérieuse, La démocratie des émotions aux presses de Sciences Po. Voilà, on peut déconner. Alors, je vous entendais citer le monopole du cœur. Donc oui, la passion en politique, ça marque.
Je crois que ce sont des acteurs. C'est pas Thomas VDB qui va me contredire, ou Alexis Vizorek, tous ceux qui sont
Jean-Pierre
que je respecte. Hein. Non, mais je crois qu'évidemment, ce sont des acteurs. Donc les acteurs, il faut mettre des sentiments parfois faux, mais il faut jouer avec la passion. Mais il faut passionner les gens surtout. Et c'est vrai qu'on l'a vu récemment avec Le Pen Macron. Là, d'un coup, elle est partie, elle a mal joué. Elle a tenté, mais c'était trop. Le côté, ils sont là. Donc je crois, il y a de la passion, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses. Mais pour moi, ce sont des acteurs avant tout.
C'est-à-dire pour faire passer le message, c'est indispensable.
Mais il faut être patient, enfin, surtout avoir une ambition démesurée. Voilà, et être prêt à tuer père et mère pour y arriver. Je crois que l'acteur n'est pas fort. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais pas tous.
Et vous, en tant que spectateur, est-ce que ça vous passionne ou justement vous
J'adore.
Là, oui, d'accord.
Moi, j'adore les grands débats politiques. Mais bon, avant, parce que maintenant, je suis quand même, j'ai l'âge que j'ai, c'est-à-dire 32 ans. Mais c'est vrai que j'ai vu des grands trucs. Moi, je me souviens quand j'étais tout petit, les débats, enfin les conférences de presse de Gaulle ou Pompidou citant René Char ou je sais pas quoi, extraordinaire. Et quand on voyait notamment comment il s'appelait celui qui alors Liliane
Marchais,
c'était extraordinaire et il y a toujours eu des joutes verbales formidables quand Sarkozy dit à Strauss-Kahn vous êtes gentil mais vous n'êtes pas mon professeur et je ne suis pas votre élève. Si vous aviez été mon élève, vous n'auriez pas fait cette erreur. Moi, j'adore la rapidité. Nous ne sommes pas ici deux hommes politiques en face. Je ne suis pas votre premier ministre. Nous sommes deux candidats. Oui. Continuez, monsieur le Premier ministre. C'est extraordinaire. Mais vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote pour vous dire. Je peux?
Allez-y, Antoine Duléry, bien sûr.
Claude Brasseur, avec qui j'ai fait Camping 1, Camping 2, Camping 3, il m'a raconté un truc formidable pour vous dire comment ces politiques sont quand même incroyables. Il jouait le dîner de cons depuis 800 fois, qui était le carton au théâtre des variétés. Et Mitterrand adorait les artistes, tout ça, et les acteurs, il était très au fait de ça. Et un jour, comme il s'appelle, Brasseur sort d'un restaurant, et il n'avait pas vu que Mitterrand était là, et il entend Brasseur! Il se retourne, il voit Mitterrand en train de se faire chier avec deux énarques. Visiblement. Donc il arrive à la table du président, le président lui fait « Alors, Brasseur, hein, qu'est-ce que vous faites en ce moment ?» Et Brasseur lui dit « Écoutez, monsieur le président, je suis toujours au théâtre des variétés où je joue l'autre, l'Inthéon. Ah oui, votre fameux dîner, eh bien moi, vous voyez, c'est un déjeuner.
» Antoine Duléry avec nous jusqu'à 18h. Et il y a cet humoriste que vous admirez, dont vous lécherez les pieds à la fin de la chronique.
Thomas VDB. Non, mais il me fait rire, il a du talent. J'aime pas tous les humoristes. Alors, je trouve que souvent, ils sont un peu... Et j'aime pas tous, il y en a, peu importe, c'est normal, hein, je suis un
lui,
homme.
Lui, ça fait partie.
Lui, je l'aime bien. Ouais, il est marrant, il est un peu déconnant, il est marrant. Je n'apprécie pas du tout ce qu'il va dire.
C'est bien,
complètement, je me désolidarise totalement de ce qu'il va dire, mais je l'écoute quand même et je l'encourage.
Allez, on est parti.
Je me lève le 5 juin au matin. Je me suis rappelé en un instant qu'il me restait pas beaucoup de temps pour faire une déclaration de revenus. Ma déclaration de revenus.
Voilà, puisque la semaine dernière, comme chacun d'entre nous, j'ai fait ma déclaration de revenus. C'est jamais le meilleur moment de l'année. Non, c'est vrai que dès que tu deviens imposable dans la vie, la feuille d'impôt, c'est jamais une surprise en bien. À chaque fois, tu l'ouvres, t'es là. Ah ouais? Il y a toujours une petite rancœur quand même. Moi, quand j'ouvre mon avis d'imposition, il y a toujours une fraction de seconde où je deviens très fort de droite. Ça dure jamais longtemps, mais à chaque fois qu'il faut payer les impôts, il y a une nanoseconde où je suis extrêmement de droite. Vraiment, c'est aussi intense que fugace. Donc, j'ai un pote qui m'a dit, mais c'est pas dur, si tu veux payer moins d'impôts, il faut que tu vois un fiscaliste. Et je sais pas si, vous savez ce que j'ai répondu? J'ai dit, ah bon? Parce que je savais pas vraiment comment ça marche tout ça, moi. Parce que savoir que j'ai la phobie administrative comme Thomas Thévenou. D'ailleurs, c'est moi qui y refilé. C'est assez contagieux, faut savoir. En fait, un jour, j'étais dans une soirée, j'ai fait la bise à Thomas Thévenou et paf, il a attrapé la phobie administrative. Donc, j'ai appelé un fiscaliste et j'ai dit bonjour, ce serait pour payer moins d'impôts, s'il vous plaît. Alors, elle me dit oui, il faut défiscaliser, venez lundi vers 14h. Et moi, je dis non, parce que je voudrais payer moins d'impôts, mais avant minuit, c'est possible. Parce que ça, c'est une coïncidence de dingue. À chaque fois que j'ouvre l'enveloppe de ma déclaration de revenus, c'est le jour exact de la date limite de la déclaration sur un internet. Donc je dis au fiscaliste, moi j'aurais voulu défiscaliser aujourd'hui. Il me dit, ah bah non, c'est pas possible. Je dis, ouais, c'est nul, défiscaliser, ça marche pas votre truc, quoi. Et là, je sais pas pourquoi on en parle, et je sais pas comment on en arrive là, mais le mec, il finit par vouloir savoir une seule chose, c'est si je vais faire refaire mes fenêtres cette année. Hein, le gars est vraiment très insistant là-dessus, voire limite pénible. Hein, limite, je vérifie si je suis pas chez la paire. Et il me parle de ça et de l'isolation de ma maison. Et moi, je suis là, mais moi, j'ai 1000 papiers à trier chez moi avant minuit. Et je suis là, non, mais je sais bien que vos idées ont du génie, mais moi, il faut que j'aille chez moi ranger mes papiers. Là, je vais pas faire de véranda, c'est sûr. C'est horrible quand t'appelles quelqu'un pour un truc hyper urgent et que l'autre, il est là. Alors là, c'est trop tard. Par contre, ce qu'on peut faire pour l'année prochaine. Et t'as dit, ah, mais je m'en fous. Mais on parle pas, mais j'ai pas le temps. Et donc, je rentre chez moi parce que je dois aller trier mes frais. Parce que moi, on me demandait toujours avant si j'étais au frais réel. Et c'est vrai, je disais oui, mais je sais pas ce que ça voulait dire. Je pensais, j'étais vraiment au frais fictif. Et donc, cette année, pour la première fois, je m'étais dit, allez, je me mets au frais réel, on arrête les conneries. Et toute l'année, j'ai mis mes tickets de caisse dans un gros sac. Et là, il fallait que je me dépêche de rentrer chez moi pour compter, pour dater même toutes mes centaines de cafés allongés que j'avais bu dans l'année. Et me rendre compte à 21h que la totalité de mes frais s'élève à exactement 10% de mes revenus, soit le forfait exact qu'on a le droit de déduire de toute façon sans avoir à se prendre la tête à tout compter. Donc je me dis, ouais, de la merde, je déduis rien, bim, je paye les impôts. Ça, il faut pas oublier un truc, c'est que notre président a dit, la France a besoin de passionnés qui se lèvent tôt. J'aurais complété, la France a surtout besoin de gros empotés comme moi qui comprennent que dalle au bidule tellement c'est compliqué et qui payent des impôts méga plein pot, de chez méga plein pot. Comme en plus, généralement, je les paye en retard, la majoration me donne un peu l'impression de laisser un petit pourliche. Ah, ça, je suis là, le petit passage clouté devant la mairie, c'est pour moi. Ouais, c'est pas c'est pas c'est bien. Donc c'est vrai, pour ça, je voudrais m'adresser à tous les gens. C'est vrai, je voudrais m'adresser pour ça à tous les gens qui passent leur temps à faire de l'optimisation fiscale, de l'évasion fiscale, chez Google, chez LVMH ou Amazon. Les gars, je voulais quand même leur tirer mon chapeau parce que les gars sont quand même super carrés niveau paperasse. En plus, pour défiscaliser autant qu'ils le font chez Google, tu doutes bien qu'ils doivent quand même assez souvent refaire les doubles vitrages ou l'isolation. Parce que c'est vrai que l'isolation, tu peux défalquer quand tu veux faire ça. D'ailleurs, quand je vois, c'est une petite parenthèse, mais quand je vois les black blocs s'en prendre aux vitrines des McDo, je me dis les mecs font qu'empirer le problème, ça tourne en rond. Les mecs, arrêtez de casser les fenêtres parce que refaire les fenêtres, c'est déductible. Mais en plus, pour ces entreprises, je sais pas si vous imaginez tout ce que ça fait en devis d'isolation et de factures à tenir à jour. Faut toujours mettre ça dans les bases intercalaires, dans le bon classeur, tout le temps, tous les mois, tout le temps. Balkany, par exemple, on rigole, mais j'imagine c'est un gars, bah, le matin, quand le courrier il arrive chez lui, les enveloppes imprimées, il les ouvre aussitôt. Hein, il les pose pas comme ça sur la table à côté de la boîte de ravioli de l'avant-veille. Il mouille la chemise pour défiscaliser. Il mouille le maillot, il y va. Hein, comme dirait le Aimé Jacquet, qu'on voit beaucoup, hein, ces gens qui sont sur la télé. J'apprends qu'une entreprise va être rachetée, ben je vends mes actions et j'achète au Bahamas. Voilà, je suis offensif. Voilà. Il réagit comme ça, Patrick Balkany. Alors, je me dis, est-ce qu'il le mérite pas un petit peu finalement, Patrick Balkany, cet argent qui se plie en quatre pour économiser? Si je pense un peu, et pour cela, je dis respect mon ami Patrick. Alors, je termine là-dessus. Moi, je confesse quand même assez souvent faire le malin à l'antenne de France Inter avec mes idées de gauche. Alors, parce que je crois être, comme on disait jadis, être de gauche par conviction. Mais ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que je suis aussi un petit peu de gauche par flemme d'être de droite.
Thomas VDB, l'homme qui parvient à nous faire rire avec les impôts. Yeah. Et ça, ça c'est chaud.
Très drôle. Il a tellement raison. Chaque année, okay. Moi, je me comme ça, les trucs, les papiers, les bordels. Alors, Balkany, dans mon spectacle, je disais Balkany. Je faisais comme ça, je dis finalement, Balkany, c'est mon copain. Mais Balkany, en verlan, ça fait quoi? Ça fait cannibale.
Ah ouais, c'est vrai. Ça.
Et c'est vrai, c'est important. Balkany, cannibale. Et donc, il est très fort. Nous, on n'est pas fort comme ça. Moi, je suis nul, les frères réels, tout ça, j'ai rien compris. Je me suis fait enfler toute ma vie. Et je continue, effectivement, à offrir des...
Changer les fenêtres
Je changeais de fenêtre. On m'a proposé de changer. J'ai appelé un fiscaliste, il m'a dit, est-ce que tu veux changer de femme?
C'est une bonne affaire.
Non, mais tu peux défiscaliser ta femme.
Ah, c'est le moment où on passe un disque, ça. Ah, si, c'est le moment où on passe un disque. De toute façon, après, il y a l'impôt à la source, donc faut la garder, bim.
Si tu t'en vas, si tu t'en vas un jour, tu m'oublieras. Les paroles d'amour, ça voyage pas. Si tu t'en vas, tu t'en vas. Si tu t'en vas.
Serge, si tu t'en vas, excusez-nous de vous réveiller, France Inter par Jupiter, Antoine Duléry est en notre compagnie, il met à l'honneur l'art lyrique en venant présenter Carmen de Bizet lors du festival Opéra en plein air qui se tient à Sceaux, qui se tient à Vincennes, à la Cité de Carcassonne le 3 juillet et puis à Saint-Germain-en-Laye les 6 et 7 juillet au Domaine National. On vous donnera quelques dates pendant toute l'émission car Antoine Duléry nous fait l'amitié d'être avec nous jusqu'à 18h ainsi que... Guillaume Meurice.
Oui, Guillaume Meurice. Oui, c'est moi. Alors, on a reçu pas mal de messages d'auditrices et d'auditeurs déçus qu'il n'y ait pas eu de journée spéciale Serge Dassault sur France Inter. Et c'est vrai que c'est injuste. Oui, parce que quand Vincent Delerme chope une verrue plantaire, on en fait une. Quand Eddie Depreto se coince une couille dans un fa dièse, c'est deuil national à la maison de la radio. Grève de la faim chez les programmateurs musicaux. Et rien pour Serge, qui jouait quand même du pipeau à la perfection et qui a été une source d'inspiration intarissable pour nous. Alors, je vais réparer cet affront. Je me suis rendu auprès des siens au Salon international de l'armement ce matin. Pour un dernier hommage au grand homme, pour un dernier hommage à l'artiste.
C'est un des grands noms de l'industrie française, bien évidemment, c'est une perte. Ses réalisations, sont, je ne vais pas vous les apprendre, vous les connaissez aussi bien que moi.
Quelle est la plus grande réalisation de Serge Dassault ?
Je ne sais pas. Je pense que tout ce qu'il a réalisé est une œuvre majeure pour notre pays, donc il n'y a pas de sujet en particulier.
On peut parler d'œuvre pour Serge Dassault ?
Oui, on peut peut-être en parler, oui.
C'est le mot que vous avez employé.
Ah bah d'accord.
Ah bah oui, on va pas prendre des pudeurs de gazelle. Hein. L'œuvre de Serge brillera pour l'éternité au firmament de la France éternelle. C'était un être solaire, plus précisément un être missile solaire d'ailleurs, comme ceux qui pleuvaient de ses avions. L'assurance d'un feu d'artifice réussi. Oh, la belle rouge, disaient les enfants. Attention, tu vas te la prendre dans la gueule, répondait la maman. Bonne ambiance. Alors, osons la question. Est-ce que Serge Dassault était un artiste ?
Il aimait en tout cas l'esthétique, puisqu'il disait qu'un bel avion était un bon avion. Donc il a fait des beaux avions.
Oui, parce que quitte à se faire défoncer par un rafale, autant qu'il soit joli. Il n'y a rien de plus humiliant que de se faire bombarder par un avion dégueulasse. Combien d'enfants agonisant encore une fois dans les ruines ont eu comme dernière parole « Je voudrais l'avion de Serge pour mon anniversaire !» Bon, il disait l'avion à Serge pour énerver Marlène Schiappa. Mais à cet âge-là, vous savez, les enfants sont taquins. Et ça, c'était dans le monde entier pour la France.
Grâce à Serge Dassault, la France est connue mondialement par son savoir-faire. Sa technique.
Elle est reconnue aussi mondialement par l'achat de votes à Corbeil-Essonne.
Aussi, ça c'est, voilà, ça c'est bon. Ça, c'est...
Disons qu'il avait plusieurs savoir-faire.
Voilà, plusieurs, oui, exactement. Donc ça prouve que c'est un homme de grand talent.
Hein. Ouais, mais sans aucun doute, parce que, bah, comme l'a rappelé un peu Thomas, c'est du boulot tout ça. Hein. Vous avez déjà essayé d'organiser une magouille pour vous faire élire, bah c'est pas facile. Il faut de l'argent liquide, il y a des fuites, et puis les fuites, Serge, on sait qu'il avait du mal à les maîtriser. Hein. Les bancs du Sénat peuvent vous en parler. Donc, hommage au grand homme.
C'était un capitaine, effectivement, de l'industrie aéronautique. Et c'est pas fini, puisqu'en fait, c'est capitaine, mais avec une succession, avec Monsieur Olivier Dassault.
Oui, alors il porte le même nom.
Absolument. Ouais, mais c'est une grande famille et des grands noms parmi l'aéronautique.
Et les familles d'artistes, hein, on les connaît, les Bouglione, les Grus, les Lagardère, les Bolloré, les Dassault. C'est les enfants de la balle, de la balle dans la nuque essentiellement, quand ils commercent avec des dictatures, mais de la balle quand même. Et puis de toute façon, je vais vous dire, être fils à papa, ça ne veut rien dire.
Je suis convaincu qu'un Serge Dassault, même en partant de rien, on aurait réussi à faire quand même quelque chose de pas mal.
Ah oui, vous pensez ?
Je suis certain.
Comment vous pouvez être sûr de ça ?
On a l'impression que partir d'une société déjà établie, c'est facile, il n'y a qu'à. Non, ça ne passe pas dans les gènes, hein. C'est pas génétique.
C'est pas dans les gènes, parce que les gènes, c'est, je vous le rappelle, la moitié du patrimoine génétique qu'on transmet, alors que les droits de succession, c'est quasi l'ensemble du patrimoine financier, et ça, c'est peinard, vous récupérez max de pognon. Donc faites gaffe si vous êtes fils de milliardaire à ne pas confondre, et prenez garde aussi aux controverses si vous vous lancez en politique.
Quand on fait de la politique, c'est toujours controversé, hein, surtout en France. Après, faut savoir ce qu'on veut. Soit on dit, ouais, mais en politique, il n'y a que des politiciens, c'est pas bien. Puis quand des industriels essaient de faire de la politique, on les critique aussi.
Il ne faut pas laisser la corruption qu'aux mains des industriels.
Il ne faut pas stigmatiser les politiciens, les industriels. C'est humain. C'est pas politique, c'est pas industriel, c'est humain.
Donc Serge Lassau était un bel humain.
Voilà.
Un bel humain, très bel humain.
Il serait pas de chez nous, celui-là ?
Il est un peu de chez vous. À mon avis, il n'est pas loin de la frontière. Ouais, très bel humain, Serge. Un petit billet par-ci, un petit billet par-là. Il faisait ruisseler son humanité. Et Serge, il n'a pas fait que ça.
Il n'a pas fait que ça, il a acheté un journal. J'ai pas l'impression que ce journal-là est plus corrompu qu'un autre. Enfin, il tape un peu à gauche, à droite, tout le monde. Donc voilà.
C'est... Ah, il tape un peu à gauche, à gauche.
Oh, moi je le lis régulièrement. Quand il faut critiquer la droite, il critique aussi. Hein,
Ah oui
ouais,
le Figaro
ouais, le Figaro.
Ah, mais c'est vrai que le Figaro, des fois, il est pas tendre avec la droite. Hein. Des fois, il y a des articles pour dire qu'Alain Juppé, il est mal coiffé. Voilà, des fois, ils vont quand même assez loin. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, l'idée, c'est pas de créer, encore une fois, une polémique, mais de rendre hommage à Serge. Et comment on peut le faire, je vous le dis concrètement.
Bah, acheter des avions.
Pour rendre hommage à Serge, voilà. Pour continuer à acheter.
Pour faire marcher l'industrie française.
Mais il faut qu'il y ait des guerres, alors, de plus en plus.
Pas forcément.
Non.
On fait pas la guerre avec des avions de chasse.
Hein. Ah, alors ça, faudra peut-être prévenir le ministère des Armées et les pilotes, parce que je crois que le message n'est pas bien passé. Faites gaffe, hein, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pigé. En tout cas, le mien de message aujourd'hui, il est sans équivoque. Le marchand de mort est mort, vive la vie. Wow.
Guillaume Meurice, merci Guillaume. 17h44 sur France Inter avec Antoine Duléry. Et avant d'écouter Isabelle Sorante, abordons ce deuxième sujet. Ce sont les ex-ouvrières de l'usine Samsonite de Hénin-Beaumont qui ont perdu leur emploi il y a 11 ans. Et aujourd'hui, elles montent sur scène et elles joueront au Festival d'Avignon, d'ailleurs au mois de juillet. Et une cagnotte participative leur a permis de monter la pièce « On n'est pas que des valises », actuellement en tournée. Alors interrogeons ici le lien entre la scène et le monde du travail.
Libérez Angela Davis.
Libérez Sacco et Vanzetti.
Libérez Ho Chi Minh.
Libérez tous les prisonniers politiques.
Libérez tous les prisonniers politiques.
Libérez-vous.
Chaque voleur et chaque voleur,
chaque
prisonnier
politique.
Chaque pute, chaque mac, chaque voleur est un prisonnier politique.
Libérez Billy the Kid.
Christian Clavier, normalement, faisait la voix, parce que c'était mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiré. Alors, elles ont choisi de témoigner par le théâtre, ces ex-ouvrières de l'usine Samsonite, et en grand à Avignon. Ça vous inspire une réflexion, Antoine Duléry, ces ouvrières qui étaient un peu condamnées aussi à l'oubli, en plus de ne plus avoir d'emploi, et qui reviennent par la grande porte, elles iront même à Avignon.
Bah ouais, je trouve ça formidable, parce que moi, j'ai joué à Avignon il y a 4 ans, mon one-man show, j'avais jamais joué à Avignon, j'ai joué au théâtre du Chêne Noir, et si ça peut leur donner une porte ouverte ou se faire entendre, c'est formidable. Oui, on a souvent vu ça au cinéma, hein, les Full Monty, tout ça.
Oui.
Enfin, ce genre de gens qui ont besoin de... Puis il y a tellement de gens dans la vie qui font du théâtre amateur. Mm-hmm. Moi, j'en connais beaucoup, des gens qui sont dans des métiers qui ne sont pas toujours faciles. Et puis, brusquement, quand ils font du théâtre, ça c'est vraiment une ouverture, ils s'éclatent. D'ailleurs, je vais souvent les voir, ils sont quelquefois très très bons, d'ailleurs. Donc, je trouve que c'est génial. Le théâtre, évidemment, au départ, c'était une satire sociale, le théâtre. Hein. Si on remonte d'ailleurs à Euripide et tout ça, ça critiquait Molière, qu'est-ce que c'était aussi, hein, critiquer le Roi Soleil, etc. Donc ça, je trouve que évidemment le théâtre est politique.
C'est la bonne place donc pour revenir.
Ça peut, ça peut être politique. Oui, tout à fait. C'est formidable de passer
à Paris. On a quand même énormément sur les grands boulevards. On a quand même beaucoup de théâtre dit bourgeois.
Oui,
et peut-être ça manquerait peut-être des acteurs comme vous d'aller choisir des textes justement plus...
Oui, parce que vous savez, mais vous avez raison, mais vous savez, comme disait Laurent Terzièf, qui était ce grand acteur de théâtre, il y avait toujours la guerre entre le subventionné et le théâtre bourgeois, le théâtre de boulevard, le théâtre public, privé, pardon, théâtre public privé, mais en même temps on peut faire les deux. Chirot, il avait fait un truc génial quand il avait monté la pièce de cet auteur dont j'ai oublié le nom, peu importe, Coltès, il avait pris Michel Piccoli et Jacqueline Maillan. Et Terzièf, pour revenir à lui, il disait: le théâtre, ce n'est pas ceci ou cela, c'est ceci et cela. Arrêtons. Moi, j'ai fait, que vous l'avez rappelé tout à fait intelligemment tout à l'heure, j'ai fait Camping, Commissaire de la Rosière et Des vents contraires. Je peux faire des films d'auteur et des films populaires. Pourquoi toujours? En France, on met toujours les choses, les gens, comme ça, dans des étiquettes. Mais pas du tout. On peut faire La Cage aux Folles et Garde à Vue. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est là-dedans. Donc, effectivement.
Et vous essayez dans vos choix de justement.
Bah, j'essaye de faire des choses très diverses et variées. Parce que moi, ce que j'aime, c'est un peu à l'italienne, c'est me déguiser, c'est changer. Entre quand l'année, je faisais, effectivement, Camping, La Rosière ou Des Vents Contraires, il m'est arrivé de faire les trois dans la même année. Le slip de Camping, La Rosière, qui est plutôt élégant, et l'autre paumé avec ma jumelle, c'est quand même trois rôles différents. Mais c'est ça qui m'intéresse. Mais effectivement, ça doit être un truc social aussi. Il y a beaucoup de théâtre, Vitesse, pour revenir d'ailleurs à ce que je disais tout à l'heure sur l'opéra en plein air, c'était il voulait faire le TNP, un truc élitaire pour tous, je sais jamais, je leur dis, mais c'est vrai que c'est vachement bien, parce que grâce à Gérard Philippe, tout le monde allait voir aussi des pièces qui étaient un peu compliquées peut-être pour eux.
Et voilà,
donc je dis bravo à ces...
Oui. Le retour des ouvrières de l'usine Samsonite,
au contraire, qu'elles se fassent entendre et qu'elles fassent un carton.
En tout cas,
moi je suis pour ça.
Elles seront là.
Le théâtre.
Oui, tout à fait. À l'Espace Pasteur, du 6 au 28 juillet à Avignon. On n'est pas que des valises. On les encourage, ouais. Évidemment. Isabelle Sorrente.
Charline.
C'est le moment réfléchissons de l'émission.
J'ai passé le week-end, en fait, accroché à deux séries qui tuent, comme disent les ados, le genre de séries que vous êtes obligés de regarder jusqu'au bout et qui, en plus, ont en commun de mettre en scène des héros psychopathes. La première, c'est Killing Eve, écrite par la très douée Phoebe Waller-Bridge. Killing Eve, c'est l'histoire d'un agent du MI15, Eve Pollastri, qui est incarnée par Sandra Oh, l'ancienne héroïne de Grey Anatomy. Donc, Eve Pollastri se lance sur les traces d'une tueuse aussi belle que monstrueuse, une psychopathe ironique appelée Villanelle. Villanelle, vous la sentez bizarre dès le premier épisode, en fait, où elle échange des sourires bienveillants avec une petite fille dans un restaurant, tout ça pour renverser sa coupe de glace sur la gamine et sourire d'un air satisfait quand la gosse éclate en sanglots. Et ça, c'est le premier d'une longue série d'accros à l'image de la femme douce et empathique. À vrai dire, aucun des personnages féminins de cette série n'est douce. Je précise que Villanelle n'a pas non plus le profil de l'ancienne victime traumatisée, elle est juste psychopathe. Son empathie est purement cognitive, c'est-à-dire qu'elle perçoit juste assez les émotions des autres pour être capable de les tuer lentement, avec raffinement. En face d'elle, il y a la flic, ou plutôt l'espionne, Eve Pollastri, qui la traque durant 8 épisodes au cours desquels les deux femmes sont de plus en plus obsédées l'une par l'autre. Leur duel est à la fois dramatique, drôle, érotique et absurde. Bref, c'est le genre de série où on regrette d'arriver au dernier épisode. Heureusement, la saison 2 est déjà en route. La deuxième série qui tue s'intitule Killing Tweets. Le premier épisode commence très fort, ou plutôt très haut, à l'intérieur d'un avion qui file en direction de Singapour après avoir quitté le Canada. L'avion survole les frêles humains et les arbres centenaires dont se fiche bien notre héros. La caméra se rapproche, on aperçoit les pouces du héros, Donald, en train de s'adonner à son activité favorite, le tweet ou gazouille. Les oiseaux sont en voie d'extinction, mais lui, c'est le maître du monde, il lui reste le tweet. Et puis les oiseaux, le héros s'en fout. Il vole dans son puissant avion à des milliers de pieds au-dessus de tous ces êtres lâches et méprisables qui le prennent pour une tirelire. Ras-le-bol. Le tweet qui tue est parti. Notre héros dénonce l'accord économique qu'il vient de signer. Prenez ça dans la gueule, les conséquences, il s'en fout. Killing tweet, c'est ça qui est génial, il s'en fout. Et là, on imagine le héros avec le même sourire satisfait que Villanelle lorsqu'elle tue une ex-amante ou castre un type qui l'énerve. Le type qui énerve notre héros s'appelle Justin. Il a réservé sa place en enfer d'après le vizir du héros, qui n'est pas un vizir, mais bien un conseiller pour le commerce. Je sais, Charline, un conseiller pour le commerce qui parle comme ça, il a réservé sa place en enfer, ça ne se fait pas dans la vraie vie. Ces dialogues sont vraiment mal écrits. Et pourtant, sauf guerre atomique qui empêcherait le tournage, eh bien, Killing Tweets, hein, où tout peut arriver, eh bien, prépare sa saison 2, pleine de rebondissements. Car les adversaires du tueur, Emmanuel et Angela, sont aussi motivés qu'Eve Pollastri pour arrêter le psychopathe. Seul problème dans ces premiers épisodes, d'après moi, le héros ne semble pas comprendre qu'il y a d'autres personnages autour de lui, en fait, dans la série. Et c'est peut-être l'acteur qui n'a pas compris le rôle, mais c'est gênant. Pour le spectateur, c'est gênant. Et c'est pour ça qu'on hésite à regarder la saison 2. En fait, malheureusement, nous n'avons pas le choix. C'est le deal avec les séries qui tuent. Une fois qu'on les commence, il faut aller jusqu'au bout. Je vous recommande Killing Eve sur vos écrans et Killing Tweets partout dans le monde.
Merci Isabelle Sorrente. Avec Antoine Duléry, abordons ce dernier sujet, le bistrot parisien.
On a pensé à vous.
Les candidats pour être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'enjeu, c'est que son authenticité soit défendue, bien sûr.
dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs.
Ça.
Y a les filles de nuit.
C'est le groupe Pigalle.
Avec Adi Lazaro.
Ah ouais, bien sûr,
j'adore.
Ça a été un
c'est
tube.
Pigalle, ça
Pigalle, le groupe Pigalle, dans le la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Exactement. Avec François Adi Lazaro des Garçons Bouchers.
Voilà.
Vous le remettez.
Ça y est.
vous pratiquez le bistrot, Antoine Duléry, un peu. Parce que, c'est-à-dire que son authenticité, elle a besoin d'être défendue.
Alors, moi, j'adore le bistrot. Mais c'est quoi le bistrot? Alors, c'est beaucoup de choses.
Bistrot.
C'est un resto,
ouais.
C'est quoi? C'est un bar?
Alors, c'est le bistrot à la parisienne, c'est-à-dire qui entretient l'art de vivre.
Moi, j'adore ça. Moi, j'adore le bistrot. J'aime bien les trucs avec les nappes à carreaux. J'aime le côté un peu à l'ancienne. Ouais. Moi, je vais très souvent chez René, 14 boulevard Saint-Germain, qui est comme ça. Et j'adore le bistrot. Le bistrot parisien ou le bistrot lyonnais. J'adore le bistrot.
Le bouchon.
C'est-à-dire qu'entre l'endroit moderne, très à la mode, design, et le bistrot.
Je déteste le truc design avec ces connards ou ces connasses avec de la musique à fond qui vous vendent le steak tartare à 35 euros.
Et puis il n'y a pas d'andouillettes.
Et qui sont désagréables. Moi je déteste ça. Moi je suis très à l'ancienne. J'ai envie de me retrouver avec Belmondo, avec Gabin, avec Audiard, avec Bernard Billet, avec Jean Dujardin. Avec Jean, on se fait des rognons et tout ça. Et j'adore ça. Moi je suis pour le bouchon, enfin le bouchon parisien, c'était pas le bouchon lyonnais. Ah ouais, moi j'ai le truc
bistrot,
moderne.
Ouais.
Chicos, le lounge. Ouais. J'exècre.
Donc, si vous deviez expliquer à un touriste étranger qu'est-ce que c'est que l'art de vivre du bistrot, vous en avez donné un aperçu, mais quelles sont les images que vous avez? Est-ce que, par exemple, moi, j'ai l'image des chaises qui sont tressées comme ça.
Oui.
Amélie Poulain.
J'allais dire, c'est un peu, il y a un petit côté carte postale, mais qui est vachement beau. Il y a un côté Montmartre, le côté alors parisien, Paris, c'est le côté effectivement. Il y a encore des bistrots comme ça qui ne bougent pas. Il y a le Rouquet, là, boulevard Saint-Germain, là, qui est formidable. Mais je leur dis, mais surtout ne bougez pas. On se croyait dans les années 50-60. C'est génial. Je ne suis pas contre la modernité, etc. Mais ces endroits qui sont comme ça, il faut les laisser comme ça. Et moi, un bon petit saucisson, un petit coule rouge.
Guillaume Meurice, il regarde. Il est vegan.
Votre image du bistrot, il s'appelle Sorrent. Un peu la même.
Il a bien une tête de végétal.
C'est-à-dire, il y a un zinc.
Il y a du zinc, je veux du pilar. Et moi, un jour, j'étais chez ma copine Mathilde Seignon. Bon, il y avait un cocktail chez elle, dans 5e. Elle a une très belle maison avec un petit jardin. Il faisait très, très froid. On était tous debout avec nos assiettes. Et il y avait le fils Gabin qui était là, Mathias, que je connais bien, et d'un coup il sort, je le vois, il faisait moins 20, et je le vois avec sa cascade, il a la gueule de son père, il s'assoit dehors, sur une table, et il becte. Il faisait moins 10. Je vais le voir. Je dis, Mathias, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, écoute, moi, je veux dire, je suis comme mon père. Pour manger, il faut que je sois assis. Je trouve ça formidable. Il y a ce côté comme ça. Moi, j'adore ça. Alors, évidemment, je suis à côté d'un végétarien.
Vive le bistrot parisien.
Vive le bistrot parisien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui se passent dans les bistrots parisiens. Et c'est une imagerie formidable. Et c'est vrai que boire des coups de pinard avec Antoine Blondin et refaire un singe en hiver, moi, je suis le premier.
L'UNESCO vous a entendu, on espère. Antoine Duléry.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité dont il découvre le scénario.
Ah, je peux juste faire une petite parenthèse pour revenir à Serge Dassault dont j'ai fait la voix off sur le magnifique. Non, je voulais simplement dire que Marcel Dassault, le père s'appelait Marcel Bloch, qui était un nom évidemment juif.
Exactement.
Et ça me fait penser à Tristan Bernard, puisque Bloch était devenu Dassault. Et il avait été quand même à Buchenwald, il en est revenu, le père de Serge. Et Tristan Bernard disait cette phrase magnifique, qui lui-même était juif. Avant, on bloquait les comptes. Maintenant, on compte les blocs. C'est beau.
C'est bien tourné. Alors, le sketch.
Alors, on y va.
Je vous donne des personnages que vous imitez très bien, qui sont à Téléfoot, parce que Téléfoot a fêté son anniversaire et c'était Emmanuel Macron.
Oui.
On aurait préféré y voir Arditi Belmondo.
Oh.
Et qui est le troisième? Et Lucchini.
D'accord. Alors, on y va.
On y va. Bonjour et bienvenue à tous dans Téléfoot, je suis Christian Jean-Pierre.
Bonjour à vous trois.
Pardon, Vicente?
Bonjour à Christian et à Jean et à Pierre. À moins que Jean-Pierre ne soit aucun. Ah d'accord, bonjour à vous deux alors.
Voilà,
d'accord.
Merci à vous, Vicente Lizarazu. Trois invités très spéciaux, trois légendes du cinéma aujourd'hui.
Ouais, tout d'abord Jean-Paul Belmondo.
Eh oui, c'est moi mon bonhomme, badaboum, me voilà tout de suite, c'est moi-même, tout moi-même.
Ouais, ensuite monsieur Pierre Arditi.
Ah bah voilà, moi je suis très content d'être ici, voilà, parce que moi Téléfoot, voilà, les bleus, voilà, très content. Voilà.
Merci Pierre, voilà, je vous rappelle qu'on a une heure d'émission seulement.
Et enfin, l'immense Fabrice,
c'est énorme d'être ici sur le plateau de Téléfoot. Le football, c'est vraiment une métaphore de l'existence.
Ah
c'est
bon
Nietzsche à la portée du ballon rond.
Ah bon, Fabrice?
Mais oui, des hommes qui courent après un ballon, c'est hallucinosant. C'est pour le faire rentrer dans une cage. Et comme le disait Céline.
Merci, Fabrice. Merci.
Non, mais moi j'aurais bien aimé savoir ce qu'elle a dit là, cette Céline.
Voilà, pardon. Première question. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe de France? Est-ce que vous êtes confiant, Jean-Paul?
Mais bien sûr, mon bonhomme. Il faut la gagner. Tac, 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 tac. Badaboum, Kylian Mbappé.
Mbappé, tac tac, Paul Pogba, bien sûr Griezmann, tac le but et voilà.
Ou Giroud.
Bien sûr, ça donne ça, tac tac, Kylian Mbappé, tac tac, Paul Pogba, bien Giroud et hop, ça passe d'un peu de... Hop, à côté du but, tout moi-même.
Et vous,
voilà, Lorient, le Coran alternatif.
Pierre Arditi, vous êtes confiant, vous?
Ah bah voilà, on va le gagner, voilà. Évidemment, les Français sont pessimistes, bah voilà, c'est normal, ils sont toujours pessimistes, voilà. Ils vont dire du mal des joueurs. Vous savez ce qu'on dit des Français? Voilà, ce sont des Italiens de mauvaise humeur.
Vous trouvez que la France ne soutient pas assez son équipe?
Ah bah voilà, jusqu'au moment où on va arriver en finale, voilà, c'est lamentable, voilà, c'est pitoyable.
C'est clair.
C'est pitoyable.
C'est clair.
Voilà,
Fabrice Lucchini.
Les Bleus, immense équipe, immense talent. Les gars sont jeunes, ils sont beaux, ils sont secs, ils sont dionysiaques.
Ah putain, je savais pas ça. Bicette, vous savez pas ce que veut dire dionysiaque?
Non mais si, bien sûr, c'est les fans de Céline Dion, mais je savais pas que les Bleus...
Okay, merci à vous trois. Alors un pronostic avant de nous quitter.
La France, mon vieux, 4-2 en finale contre la RDA.
Ah voilà, Jean-Paul est toujours dans l'as des As.
Alors voilà, évidemment, hein, Pierre Arditi, voilà, on est content de jouer la Coupe du Monde, hein, et en même temps, voilà.
Merci à vous Fabrice.
Terrible, moi je pense qu'il faut laisser gagner Poutine, c'est un ami de Gérard.
Oui.
Poutine, il est presque aussi beau qu'Emmanuel Macron, et ça me fait penser à Tourguenieff, voilà, qui disait...
Merci. Bonne Coupe du Monde à tous.
Merci Antoine Duléry. Et il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a l'opéra.
Oui.
Opéra en plein air. Vous présentez Carmen de Bizet dans plein de lieux patrimoniaux. Exactement. On vous encourage à aller les voir. Merci beaucoup Antoine Duléry.
Merci à vous. Vive France Inter.
Merci.
Vive la France libre.